Bonjour Hugo, bonjour à tous.
L'inauguration de la Marelle hier matin à Bressuire.
Il n'y a rien de plus beau pour un élu que d'inaugurer une école. Peu manquait d'ailleurs à l'appel hier matin à Bressuire, quartier de la gare. Plus qu'une école même, puisque la Marelle accueille une école maternelle, une école élémentaire, mais aussi un accueil périscolaire et un centre de loisirs. La cantine y est également intégrée. La Marelle a ouvert ses portes le 28 février dernier. Un projet de 9,5 millions d'euros avec la participation de l'Aglo, plus de 2 millions d'euros, a précisé le président Pierre-Yves Marolleau. L'État a engagé 1 139 000 euros, le département 950 000 pour, je cite, une vitrine contemporaine du mieux enseigné, comme le disait hier la présidente du département Coralie Desnou, qui entourait la maire de Bressuire, Emmanuel Ménard.
On regroupe donc l'école Gilles Ferrier-Guédon. On regroupe aussi le service périscolaire, le centre de loisirs. Donc, ce sont plusieurs équipes en fait qui sont amenées à travailler ensemble dans cet établissement. Et effectivement, c'est un établissement où bon nombre d'enfants viennent du quartier politique de la ville et où donc le vivre ensemble avec chacun nos différences compte beaucoup.
Aujourd'hui, inauguration officielle avec les élus et puis demain, il y a une porte ouverte. Hein.
Les portes ouvertes sont de 9h à midi. Et j'invite tout le monde parce qu'après, une école se referme sur elle-même et garde ses enfants au cœur de son établissement. Donc là, c'est le moment pour les parents de venir voir chaque classe, chaque cours, la restauration scolaire. Donc oui, il faut que les gens viennent nombreux. Nous serons là pour les accueillir, pour les guider. L'association des parents d'élèves sera là aussi. Ça devrait être un bon moment également.
Cette école de la Marelle s'intègre parfaitement dans ce quartier de la gare en plein renouveau. Tout un chacun est invité à découvrir le site ce matin, actuellement d'ailleurs, jusqu'à midi tout à l'heure à l'occasion des portes ouvertes. L'architecte Gilles Lefébure était présent d'ailleurs hier matin lors de l'inauguration.
On a été attentif à être dans la prolongation de toute l'urbanisation du quartier. Le bâtiment qui est à l'entrée, on a repris un volume qui rappelle un peu le volume du Pôle emploi, bâtiment Pôle emploi qui est à côté, voilà, pour essayer de s'accrocher, qu'on ait une espèce d'épanelage qui soit bien intégré. Et on a été attentif aussi à ce que justement le bâtiment soit, même si on est sur deux niveaux, à ce qu'on ne soit pas trop haut pour pas non plus boucher les vues de la place Saint-Jacques, un espace assez intéressant. Et dans la mesure du possible, de pas trop boucher non plus les vues des riverains qui sont tout le long.
En début de semaine prochaine, nous reviendrons sur le temps fort de l'inauguration de la Marelle qui avait donc lieu hier matin, à savoir la prestation de l'orchestre à l'école. Reportage signé Fabien Gazeau.
Belle ambiance et la foule des grands soirs pour l'inauguration des nouveaux locaux de Fontenot Décoration jeudi soir à Bressuire.
On ne peut plus passer sans les voir installés depuis juin dernier au 70 boulevard de Thouars. C'est une belle vitrine qui désormais s'offre à la vue sur cet axe particulièrement fréquenté. Le propriétaire Eric Fontenot dispose maintenant d'un bâtiment neuf de 820 mètres carrés pour accueillir le magasin de déco, mobilier, luminaire, papier peint, revêtement de sol, peinture, qui jouxte un espace de stockage au rez-de-chaussée et les bureaux qui sont à l'étage. Un patron heureux à la tête d'une société qui n'a cessé d'évoluer. Eric Fontenot, au micro-colline de Jacqueline Pinon.
Ça fait 50 ans, quasiment jour pour jour, parce que l'entreprise a été créée en avril 72, donc elle a connu évidemment une évolution classique. Ça a démarré en centre-ville, près de la cave. Ensuite, on trouvait ses sorties en 95, boulevard de Poitiers. Moi, je l'ai reprise en 2003. Donc là, c'est Fontenot 3.0, quoi, en fait. Avec un nouveau bâtiment, une nouvelle boutique. On a repris un esprit un peu centre-ville. On remet les clients au centre du magasin. Avant, on avait un magasin qui était un peu hybride. C'est un peu trop grand, mais pas assez. Enfin bon, on essaie de leur faire vivre des émotions. Quand ils viennent ici, ils découvrent et qu'ils apprennent des choses. Je crois que si on ne fait pas vivre des émotions à nos clients aujourd'hui, malheureusement, nos métiers de commerçants de proximité disparaîtront au profit du web et des grandes surfaces. Donc, c'était un peu un pari osé parce qu'on a changé la surface, on a un peu diminué, mais on a fait un magasin un peu plus gourmand. On se dit ça, c'est qu'on a plus de choix de mobilier, plus de choix d'objets déco, beaucoup de choix de papier, de textures, de revêtements. Donc, c'est vraiment un concept nouveau.
Donc, tout va bien chez Fontenot Décoration ?
Tout va bien, pourvu que ça dure. Et bon, je suis un dirigeant heureux avec des collaborateurs qui sont fabuleux, donc je m'amuse tout le temps.
Fontenay Décoration qui s'est également déployée à Nantes l'an passé avec la reprise de l'entreprise familiale créée en 1926. C'est l'entreprise qui peut aujourd'hui compter sur une équipe de 23 salariés.
À Thouars, le salon de l'habitat fait son retour ce samedi et dimanche.
Effacé du calendrier pendant 2 ans, le salon de l'habitat ressuscite ce week-end à l'orangerie du château. L'ancienne équipe a laissé place à une organisation qui reprend corps dans une ambiance totalement rénovée grâce à la société Puzzle Centre, organisatrice d'autres salons d'ailleurs de notre département. Le salon de l'habitat à découvrir et à suivre ce week-end, aujourd'hui et demain dimanche de 10 à 19h au château, à l'orangerie du château. Entrée et parking gratuit. Le nouveau documentaire de la journaliste d'investigation de Sévrienne, Marie-Monique Robin, projeté aujourd'hui à Niort. Chacun de ses films, fruit d'une longue enquête de terrain, offre un regard critique sur la situation mondiale. On citera notamment Le Monde selon Monsanto, le leader mondial des OGM, ou encore plus localement Nouvelle Cordée, où elle s'est intéressée à l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée à Mauléon. Cette fois-ci, elle met en exergue, par le biais d'interviews de scientifiques à travers le monde, les liens plus que néfastes entre la destruction de la biodiversité et l'émergence de maladies infectieuses dans ce documentaire intitulé La fabrique des pandémies, qui sera donc diffusé ce soir à Niort.
Ce que démontrent ces scientifiques depuis des années, c'est que d'abord, la liste des maladies émergentes est très longue. On pense tout le temps à la Covid, mais avant la Covid, il y avait plein d'autres depuis une trentaine d'années. Ebola, le Zika, le Chikungunya, le MERS, le Nipah, enfin. Le sida est aussi une maladie émergente d'origine zoonotique, c'est-à-dire animale. On a tendance à l'oublier. Et donc, ils ont montré les mécanismes qui sont à l'œuvre. Et le premier d'entre eux, c'est la déforestation, hein, dans les zones tropicales. Ensuite, l'élevage intensif qui sert de d'amplificateur. Et la globalisation. Le fait qu'on on déplace tout sur toute la planète, dans tous les sens, ça permet à un virus qui est sorti du bois, si j'ose dire, à cause de l'activité humaine, eh bien, se retrouve à l'autre bout du monde. Donc c'est ce qu'ont démontré ces scientifiques, et ils démontrent aussi comment la biodiversité en elle-même, c'est-à-dire plus on a de biodiversité, plus on est à l'abri des maladies. La biodiversité protège, c'est ça qui est absolument exceptionnel et très méconnu, en fait. C'est que l'exemple qui est donné dans le film, c'est la maladie de Lyme, avec des chercheurs américains qui ont montré qu'en fait la recrudescence de cette maladie, y compris en Europe d'ailleurs, est due à la fragmentation des forêts qui perturbe l'équilibre entre les espèces, qui fait par exemple que les prédateurs sont obligés de partir parce qu'ils n'ont plus assez d'espace pour vivre, comme les renards, et que du coup certaines espèces de rongeurs prolifèrent, et ce sont ces espèces-là qui sont réservoir de la bactérie qui peut infecter les tiques et ensuite les humains.
Une douzaine de scientifiques ont ainsi été interviewés, filmés dans 8 pays sur 4 continents. Une aventure dans laquelle l'actrice Juliette Binoche a été embarquée.
Moi je me suis dit, ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un qui ne connaît rien à la science et qui rencontre des scientifiques, et du coup ça force et ça contraint naturellement les scientifiques à faire un grand effort de pédagogie, et ça marche, parce que bon, moi j'arrête. Depuis le 22 mars on a fait une première avant-première à l'UNESCO avec 1300 personnes, c'était très impressionnant. Après j'ai fait une tournée dans toute la France, je suis allé aussi à Genève, 500 personnes, et partout des gens disent eh bien moi je connais pas la science, je n'ai pas de formation scientifique, et je comprends ce que me disent les scientifiques.
La fabrique des pandémies de Marie-Monique Robin sera projeté ce samedi à 20h au Moulin du Roc à Niort, en présence de la réalisatrice. Après une belle sonofête très réussie le week-end dernier au château d'Argenton, Scène de Territoire poursuit ses belles escapades ce samedi avec une très belle proposition. Béatrice Massin, figure de la danse baroque d'aujourd'hui, va en effet investir le parc des Roches Blanches au Pin. Écoutez à ce propos Béatrice Dopagne, la directrice de Scène de Territoire.
La chorégraphe qui fait référence en France sur la danse baroque telle qu'elle s'écrit aujourd'hui, c'est-à-dire c'est pas une danse baroque traditionnelle, classique, ampoulée, j'ai envie de dire, c'est vraiment une danse qui s'articule aussi avec un langage d'aujourd'hui, une création qu'elle adapte au domaine des Roches Blanches, classé au patrimoine national en 2013, et puis qui vient d'obtenir aussi un label de jardin remarquable en 2020. Et l'idée vraiment de faire venir Béatrice Massin, c'était que, à mes yeux, elle était la seule à pouvoir ouvrir des fenêtres sur tous ces paysages qui composent ce domaine, avec la présence de danseurs extrêmement élégants qui vont déambuler dans le parc et nous emmener à leur suite. Et voilà, c'est vraiment une proposition remarquable qui a été, en fait, qui au départ était le fruit d'une commande des monuments nationaux.
La compagnie Fête Galante de Béatrice Massin pour sa Fasta Morgana, c'est à découvrir ce samedi à partir de 18h30 aux Roches Blanches du Pin. À retenir également pour ce week-end les médiévales de Mauléon. Les animations vont se succéder dès cet après-midi 14h30 avec un défilé costumé au départ de la passerelle vers le château qui sera le théâtre de cette vaste animation qui va regrouper une petite dizaine de compagnies médiévales autour de la confrérie du Poitou. Là même, l'association d'échange et mutualisation des entreprises vous invite à découvrir plusieurs entreprises de Montcoutan-sur-Sèvre aujourd'hui à l'occasion des portes ouvertes. À découvrir pêle-mêle MH Menuiserie, Lazeris, Clisson Métal, JC Conviction, Jourdain TP, Les Meubles Souris, Cervex, Vrigno Maçonnerie, MGM Maintenance Industrielle, les Menuiseries Conny, Super U, Le Crédit Agricole, Le Crédit Mutuel, les Assurances Mutuelles de Poitiers, les services funéraires Route de l'Arjas, mais également l'Outil de Loin. Les pompiers également organiseront des portes ouvertes aujourd'hui pour faire découvrir leurs différentes missions. Les IAM, l'entreprise solidaire d'initiative et d'action du Mont-Léonais, ouvre également ses portes ce samedi, actuellement jusqu'à 13h, sur les trois sites, à savoir l'atelier bois et atelier service rue de Beauregard, atelier tissu 37 rue de Nantes et atelier démantèlement 30 rue du Cardinal Sourdi. Le docteur Patrick Bueno, chirurgien bariatrique du centre hospitalier Nord de Sèvres organise une marche contre l'obésité dans le cadre de la journée européenne consacrée à cette maladie. Demain, dimanche, sur le site hospitalier de Félabès, cette marche solidaire d'une heure, départ à 10h30, est accessible à tous. La participation est totalement gratuite.
L'actualité sportive.
Le FCB joue une partie de son maintien ce samedi à domicile. Il ne reste plus que deux matchs à jouer pour le Football Club de Bressure qui doit absolument faire le plein de points sans garantie que cela suffise à la fin de la saison pour rester à ce niveau de National 3. Pour la réception de Glèche Cap Ferré ce soir, l'entrée du stade Métayer sera gratuite. Coup d'envoi du match à 18h. Le président du FCB, Stéphane Vieux, espère l'union sacrée autour de son club.
C'est un match très important. Après, on n'est plus dépendant que de nous. Il faut qu'on aille chercher ces trois points, puis attendre le résultat des autres. Il y a des confrontations directes. Donc, il était important de faire la porte ouverte, entrée gratuite au stade pour attirer le maximum de spectateurs pour venir nous encourager. On en profite aussi pour recevoir l'ensemble de nos partenaires, pour les remercier de leur fidélité et de leur soutien continu. Donc c'est vraiment une journée très très importante.
Alors avec l'enjeu sportif, l'heure n'est pas vraiment aux célébrations, hein, mais quand même ce sera le dernier match de Xavier Benoît à domicile, donc forcément c'est un moment particulier.
Oui, il y aura cette pression de résultats. Il y aura aussi un cycle qui arrive au bout. Après 13 ans au club, il aura été l'entraîneur qui nous aura permis de grandir, de passer des étapes, de passer aussi des moments de folie avec les montées, les coupes et des moments inoubliables. Ça apporte un charme supplémentaire pour ce match.
Xavier Benoît, qui sera d'ailleurs l'invité de Sport Matin Dimanche demain, que j'aurai le plaisir de vous présenter aux côtés de Jean Grolier. Toujours dans ce championnat de National 3, à retenir le match à domicile de la réserve niortaise face à Tartassi en Régional 1 avant dernière journée ce week-end. Niort-Saint-Florent accueille Guéret, Choré reçoit Royan-Vaux, déplacement de Thouars à Fétien, Niort-Saint-Lyer à domicile affrontera Buxerolles. Match à domicile également dans ce derby entre Nueil-Aubier et Chiré-Saint-Gelais. Et déplacement de la réserve de Bressuire à Poitiers. C'est un week-end marqué par les quarts de finale de la Coupe des Deux-Sèvres. Gatifoot accueillera Chiché, Avenir 119, Hervaujoin, Le Talus Vrine, Sud-Gâtine sera opposé à la réserve de Cerisé. Un petit mot de handball avec la dernière journée de LBE et le déplacement de Celles-sur-Belle à Fleury ce samedi en National 3 féminine pour les playoffs. Match à domicile pour Praec face à Pessac et en National 3 chez les garçons, déplacement de Lezessel à Nantes.
Le Tour des Deux-Sèvres cyclistes présenté hier soir à Niort.
Les contours de l'édition 2022 qui aura lieu du 14 au 17 juillet ont en effet été présentés au conseil départemental lors d'une soirée spéciale autour de la nouvelle équipe qui s'est formée avec le président Alain Gabart.
La nouvelle équipe qui a pris la direction du Tour a décidé de travailler en territoire au sein du département des Deux-Sèvres. C'est-à-dire que la première étape a lieu dans l'agglo de Baie, la deuxième étape a lieu dans la communauté de communes de Partenay. Parthenay et Gâtine. La troisième étape a lieu dans le pays Toircet et la quatrième étape dans la communauté de communes de Mélouan-en-Poitou. Ce qui nous amène sur la première étape à faire un Moléon-Courlet. Sur la deuxième étape, ce sera Secondigny avec donc toute la traversée de la Gâtine. La troisième étape, nous ferons un contre-la-montre à Saint-Laurent le matin, le samedi matin, suivi d'une manche de Coupe de France handisport après le contre-la-montre. Et l'après-midi, nous ferons Saint-Laurent-Valenvigne, donc dans la communauté de communes du pays de Toircet. Et puis, le dimanche, nous partirons sur le sud du département pour faire une étape Égondigné-Chef-Boutonne.
Le Tour des Deux-Sèvres cyclistes s'annonce d'ores et déjà d'un niveau sportif intéressant. Il aura donc lieu, je vous le rappelle, du 14 au 17 juillet. Colline sera partenaire de ce tour, dont ce sera la 21e édition. On en parlera plus longuement demain dans Sport Matin Dimanche. Au chapitre des faits divers, un grave accident s'est produit hier peu avant 18h à la crèche, alors que deux voitures étaient à l'arrêt à la sortie d'une courbe derrière un semi-remorque. En cours de chargement, un motard est venu percuter les véhicules. Âgé d'une trentaine d'années, ce dernier a été transféré à l'hôpital de Niort en urgence absolue.